Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labourroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Histoire de la folie à l'âge classique, de Michel Foucault. C'est en 1961 et le premier ouvrage important de Michel Foucault, qui étudie les développements de l'idée de folie à travers l'histoire. Foucault a écrit en 1954 un premier ouvrage sur une thématique proche, maladie mentale et psychologie, histoire de la folie. Elle a été rédigée essentiellement à Uppsala, en Suède, ville où Michel Foucault avait un poste d'enseignant de français depuis 1955. L'ouvrage est publié chez Plon en 1961 dans la collection de l'historien Philippe Ariès. Foucault commence par une analyse au Moyen-Âge, notant notamment comment les lépreux furent parqués hors de la société des vivants. Il y eut peut-être jusqu'à 19 000 léproseries à travers la chrétienté. À partir de là, Foucault trace une histoire de l'idée de la maladie mentale au XVe siècle et de l'intérêt accru pour l'emprisonnement au XVIIe siècle en France. Un repère est donné. C'est la fondation par un décret en 1656 d'un hôpital général qui servira de lieu d'internement pour les fous, mais aussi des pauvres, des criminels. Enfin, la folie aurait été reconnue comme une maladie de l'âme, puis, avec Freud, comme une maladie mentale. Foucault accorde une grande attention à la façon dont le statut de fou passa de celui d'un être occupant une place acceptée, sinon reconnue dans l'ordre social, à celui d'un exclu, enfermé et confiné entre quatre murs. À la fin du Moyen-Âge, la lèpre disparaît du monde occidental. Dans les marges de la communauté, aux portes des villes, s'ouvrent comme de grandes plages que le mal a cessé de hanter, mais qu'il a laissées stériles et pour longtemps inhabitables. Des siècles durant, ces étendues appartiendront à l'inhumain. Du XIVe au XVIe siècle, elles vont attendre et solliciter par d'étranges incantations une nouvelle incarnation du mal, une autre grimace de la peur, des magies renouvelées de purification et d'exclusion. Depuis le haut Moyen-Âge jusqu'à la fin des croisades, les léproseries avaient multiplié sur toute la surface de l'Europe leur cité maudite. Selon Matthieu Paris, il y en aurait eu jusqu'à 19 000 à travers toute la chrétienté. En tout cas, vers 1266, dans le temps où Louis VIII établit pour la France le règlement des léproseries, on en recense plus de 2 000. Il y en a eu jusqu'à 43 dans le seul diocèse de Paris. C'est que depuis le XVe siècle, le vide se fait partout. Saint-Germain, dès le siècle suivant, devient une maison pour de jeunes correctionnaires. Et avant Saint-Vincent, il n'y a déjà plus à Saint-Lazare qu'un seul lépreux, le sieur Langlois, praticien en cour laïque. La léproserie de Nancy, qui figura parmi les plus grandes d'Europe, garde seulement 4 malades sous la régence de Marie de Médicis. Selon les mémoires de Catel, il y aurait eu 29 hôpitaux à Toulouse vers la fin de l'époque médiévale. 7 étaient des léproseries. Mais au début du XVIIe siècle, on en trouve mentionné seulement 3. Saint-Cyprien, Arnaud Bernard et Saint-Michel. On aime à célébrer la lèpre disparue. En 1635, les habitants de Reims font une procession solennelle pour remercier Dieu d'avoir délivré leur ville de ce fléau. Depuis un siècle déjà, le pouvoir royal avait entrepris le contrôle et la réorganisation de cette immense fortune que représentaient les biens fonciers des léproseries. Par ordonnance du 19 décembre 1543, François Ier en avait fait faire le recensement et l'inventaire pour remédier au grand désordre qui était alors dans les maladreries, c'est-à-dire les hôpitaux pour lépreux. À son tour, Henri IV prescrit dans un édit de 1606 une révision des comptes et affecte les deniers qui reviendraient de cette recherche à l'entraînement des pauvres, gentilshommes et soldats estropiés. Même demande de contrôle le 24 octobre 1612, quand on songe maintenant à utiliser les revenus abusifs à la nourriture des pauvres. En fait, la question des léproseries ne fut pas réglée en France avant la fin du XVIIe siècle, et l'importance économique du problème suscite plus d'un conflit. N'y avait-il pas encore, en l'année 1677, 44 léproseries dans la seule province du Dauphiné ? Le 20 février 1672, Louis XIV attribue aux ordres de Saint-Lazare et du Mont-Carmel les biens de tous les ordres. Tous les ordres, hospitaliers et militaires. On les charge d'administrer les léproseries du royaume. Quelques 20 ans plus tard, l'édit de 1672 est révoqué et par une série de mesures échelonnées de mars 1693 à juillet 1695, les biens des maladreries devront être désormais affectés aux autres hôpitaux et aux établissements d'assistance. Les quelques lépreux qui sont dispersés au hasard des 1200 maisons encore existantes seront groupés à Saint-Mémin, près d'Orléans. Ces prescriptions sont appliquées d'abord à Paris, où le Parlement transfère les revenus en question aux établissements de l'hôpital général. L'exemple est limité par les juridictions provinciales. Toulouse affecte les biens de ses léproseries à l'hôpital des Incurables en 1696. Avec Histoire de la folie à l'âge classique, sa thèse de 1961, Michel Foucault s'attache à montrer qu'une grande rupture se fait jour à partir du XVIIe siècle en Occident. La folie devient désormais l'envers de la raison et a pour corollaire l'institutionnel internement. L'âge classique est celui du grand renfermement, des fous, des oisifs et des vagabonds. Son ouvrage qui lui succède en 1666, Les mots et les choses, veut pour sa part analyser l'histoire de l'ordre et du savoir à partir du Moyen-Âge. En ce sens, il constitue le pendant d'Histoire de la folie. Histoire de la folie serait l'histoire de l'autre, de ce qui pour une culture est à la fois intérieur et étranger, donc à exclure pour en conjurer le péril intérieur, mais en l'enfermant pour en réduire l'altérité. L'histoire de l'ordre des choses serait l'histoire du même, de ce qui, pour une culture, est à la fois dispersé et apparenté, donc à distinguer par des marques et à recueillir dans des identités. Dans Histoire de la folie, tout comme dans Les mots et les choses, Michel Foucault ne prétend pas faire une histoire au sens classique du terme. Il préfère parler d'une archéologie, comme l'indiquent Les mots et les choses, sous-titré « Une archéologie des sciences humaines ». Bien entendu, Michel Foucault donne un sens très particulier à cette expression « archéologie du savoir » visant à dévoiler les soubassements et les conditions de fonctionnement des discours. Pour Michel Foucault, l'histoire du savoir dans la pensée occidentale après le Moyen-Âge n'est pas un écoulement littéraire. Cette impression n'est qu'un effet de surface. Il repère un effet de grande discontinuité, l'une vers le milieu du XVIIe siècle qui donne naissance à l'âge classique, et l'autre, au début du XIXe siècle, qui inaugure notre modernité. Michel Foucault est né le 15 octobre 1926 à Poitiers. Son père est chirurgien et professeur d'anatomie. Durant la Grande Guerre, 1914-1918, il est mobilisé comme infirmier puis médecin auxiliaire. Sa mère est la fille d'un médecin et possède des biens immobiliers à Vendeuvre du Poitou. Michel Foucault est admis à la rentrée 1945-1946 au lycée Henri IV. Il est reçu quatrième en 1946 au concours d'entrée de l'École normale supérieure de Paris, rue d'Ulm. Il côtoie Louis Althusser, dont il devient vite l'ami. Entre 1951 et 1955, et à la demande de Louis Althusser, Michel Foucault enseigne la psychologie à l'École normale supérieure. Même s'il n'est pas intéressé par une carrière d'enseignant, il entreprend alors un long exil hors de France. En 1955, il accepte donc un poste à l'université d'Uppsala, en Suède, en tant que conseiller culturel, position qui est arrangée pour lui par Georges Dumézil. Celui-ci devient par la suite un ami et un mentor. Michel Foucault retourne en France en 1960 pour finir sa thèse et occuper un poste de philosophie à la faculté des lettres de Clermont-Ferrand. Il a pour collègue Michel Serres. En 1966, il publie « Les mots et les choses », ouvrage dans lequel, faisant écho à Nietzsche et à son concept de mort de Dieu, Foucault théorise la mort de l'homme, qui connaît immédiatement un immense succès. À l'époque, l'engouement pour le structuralisme est à son comble, et Foucault se retrouve très rapidement rattaché à des chercheurs et philosophes tels que Jacques Derrida, Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, alors perçu comme la nouvelle vague de penseurs prêts à renverser l'existentialisme et l'intellectuel total incarné par Jean-Paul Sartre. En 1969, Michel Foucault est élu au Collège de France, prestigieuse institution française d'enseignement et de recherche, comme professeur de la chaire « Histoire des systèmes de pensée ». Son engagement politique à l'extrême gauche s'accroît durant cette période des années 70. Des liens sont établis avec la gauche prolétarienne, mouvement maoïste non-léniniste devenu clandestin. C'est à la suite d'une grève de la faim de certains de ses militants, pour obtenir le statut de prisonnier politique, que Foucault fonde le groupe d'information sur les prisons, le GIP, pour permettre aux prisonniers de s'exprimer sur les conditions et leur incarcération. La réflexion de Foucault, attachée à son expérience avec le groupe d'information sur les prisons, se retrouve dans son livre « Surveiller et punir » qui paraît en 1975. C'est une étude des structures des micro-pouvoirs qui se développèrent dans les sociétés occidentales à partir du XVIIIe siècle, avec un regard approfondi sur les prisons et les écoles. Foucault passe alors de plus en plus de temps aux États-Unis. C'est durant cette période qu'il se met à l'écriture d'un projet « Histoire de la sexualité » dont il publiera 4 volumes. Fin 1978, il se rend à Téhéran après le massacre de la place Jalé dans le cadre d'un reportage pour la Carrera de la Serra qui inaugure une série de reportages effectués par des intellectuels. À son retour, il se consacre à la révolution iranienne. Il écrit plusieurs articles enthousiastes qui déclenchent une vive polémique. Certains l'accuseront de soutenir l'ayatollah Khomeini. Michel Foucault meurt le 25 juin 1984 à Paris du sida. Il est inhumé au cimetière de Vendeuvre du Poitou. C'était la chronique littéraire de Gilles Labourois. À bientôt.